Nous y voilà. Exercice bien délicat. Parler d'une œuvre d'art sans l'œuvre d'art. Bon, oui, vous me direz, des images existent et elles sont légion sur le net. Mais seulement voir des images, ce n'est rien face à la confrontation directe avec l'œuvre. Alors, je vous propose néanmoins de tenter l'exercice. Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer ce qu'est un retable et en quoi celui qui provient d'Isenheim pouvait ressembler. Le mot retable vient du mot latin, retabulum, derrière la table d'hôtel. Le retable est donc à l'origine une peinture ou une sculpture qui se trouvait derrière la table où le prêtre catholique célèbre les offices. Ses œuvres illustraient les textes sacrés pour les fidèles. Et avec le temps, le retable prend de plus en plus d'ampleur. Ainsi, au début du XVIe siècle, ils atteignent des proportions relativement imposantes. Comme le retable d'Isenheim, par exemple, qui était un retable à double paire de volets et qui devait mesurer certainement plus de 8 mètres de haut sur 6,50 mètres d'amplitude. L'ouverture complète des volets donnait à voir aux fidèles et malades un ensemble dédié au patron du lieu, Saint-Antoine. Les deux panneaux peints consacrés aux épisodes de sa vie encadraient la caisse où se trouvaient les sculptures, dont celle justement de Saint-Antoine. Les œuvres du retable étaient là, avec d'un côté l'apaisement et de l'autre la tourmente. Le panneau de gauche est effectivement très apaisant. Deux hommes âgés, il faut que vous les imaginiez, qui sont en train de dialoguer, sans même effaroucher le chevreuil qui se tient à leurs pieds. L'un est assis sur un rocher, drapé dans un lourd manteau bleu. L'autre est assis au bord d'une source et y porte une tunique réalisée de feuilles de palmier tissées. Grunewald s'en tient vraiment à illustrer le texte de Jacques de Voragine, La Légende Dorée, qui a été rédigé au XIIIe siècle dont un chapitre est justement consacré à la vie de saint Paul l'ermite qui vivait en Haute-Égypte et qui raconte comment saint Antoine partit à la recherche de saint Paul. Alors dans le texte, il est écrit « Il se mit à le chercher à travers les forêts. Il rencontre un hippocentaure. Cet être moitié homme, moitié cheval, lui indique qu'il fallait prendre à droite. Après avoir croisé un satyre, Antoine rencontre enfin un loup qui le conduisit à Saint-Paul. Ce dernier, récalcitrant à rompre sa solitude, ne veut pas d'une rencontre, mais finalement il accepte le dialogue qui se tient sous nos yeux, en lien avec le corbeau qui est peint dans le ciel sur le panneau que vous voyez en haut à gauche. Le texte de la légende dorée reprend. Quand l'heure du repas fut arrêtée, un corbeau apporta une double ration de pain. Or, comme Antoine était dans l'admiration, Paul répondit que Dieu le servait tous les jours de la sorte, mais qu'il avait doublé la pitance en faveur de son hôte. Le génie de Grunewald, vraiment on le voit là, est particulièrement sensible dans le rendu de l'atmosphère fantastique qui entoure cette intime rencontre. Ici, rochers et arbres couverts de lichens deviennent des silhouettes fantomatiques, écho des curieuses créatures de Jacques de Voragine. En contraste, au premier plan, vous verrez, les plantes traitées de façon très naturaliste sont reconnaissables. Le petit et le grand plantain, le pavot, la sauge, la verveine, la véronique, le petit chêne, le trèfle blanc, elles entraient dans la composition du Saint-Vinage administré aux malades au lendemain de leur intégration à l'hôpital d'Isenheim. Avec des effets anesthésiants et vasodilatateurs, elle contrecarrait les effets vasoconstricteurs de l'ergot de seigle. Sur le rocher où est assis Antoine, se détachent les armoiries de Guiguerz, commanditaire de l'œuvre. Les sculptures, elles, sont au centre, elles sont toutes groupées dans une caisse reconstituée en 1930. En effet, pour ceux qui ont bien suivi, vous vous en souvenez, la caisse originale a été détruite à Isenheim en 1794. Donc trois imposantes sculptures à dimension humaine accrochent le regard. Au centre, Saint-Antoine est assis sur un trône. Le regard sévère, il joue son rôle de saint vindicatif qui pouvait préserver du fléau, guérir, mais aussi punir par la maladie. Il tient de la main droite sa crosse, se terminant par son symbole le taureau, et de la main gauche un livre, alors la règle de l'ordre ou la Bible, on ne sait pas. Et son dernier attribut, un cochon, est à ses pieds. Au même endroit se trouvent deux autres personnages qui apportent leurs offrandes en invoquant la protection du saint. Les deux statuettes, présentées dès l'origine au cœur du retable, ont eu un destin assez singulier. Elles ont été retrouvées sur le marché de l'art en Allemagne au tout début du XXe siècle. Et c'est le Landesmuseum de Karlsruhe qui, après les avoir achetées en 1977, va les déposer au musée Unterlinden en 1984. Alors à gauche de Saint-Antoine, Saint-Augustin, évêque d'Hippone, porte ses attributs épiscopaux, la mitre et la crosse. Le fait que la règle des Antonins soit inspirée des préceptes édictés par Augustin lui donne une place de choix dans le retable. Il protège le donateur placé, agenouillé, en prière à ses pieds. Guiguerce, lui, est vêtu du manteau de l'ordre où se détache le taux de couleur bleue. Ce signe distinctif, propre à Antoine et aux Antonins, trouve sa source dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, où seuls ceux qui portent au front la dernière lettre de l'alphabet hébreu, le Tao, seront sauvés de la mort et de la destruction de Jérusalem. À droite d'Antoine est la sculpture de Saint Jérôme. Il se reconnaît à son chapeau de cardinal et au lion couché à ses pieds. D'après la légende, après avoir retiré une épine de la patte de l'animal devenu furieux, celui-ci l'aurait suivi tel un animal domestique. Les trois grandes sculptures montrent la qualité du travail de Nicolas de Haguenau, le sculpteur. Maîtrisant son art, il anime les chairs, souligne les corps, donne à chaque visage des physionomies variées, expressives. Antoine est sévère et hautain, Augustin, docte penseur, et Jérôme, doux ascète au trait creusé. Dans l'après-d'elle sont sculptés en buste les apôtres, groupés par trois, et au milieu, le Christ sauveur du monde. Le pendant du panneau de la rencontre de saint Antoine et de saint Paul montre l'agression de saint Antoine par les démons. Cette scène amuse ou terrifie aujourd'hui. Les enfants en particulier sont glacés d'effroi par ces gueules béantes, ces monstres cornus, ces yeux globuleux ou ces becs acérés. D'autres en revanche fanfaronnent devant ce monstre qui a l'air signé et dont le nez coule, ou cet autre avec ses deux dents en avant, ou celui avec la longue trompe qui semble se cacher. Le texte à l'origine de cette représentation et que devaient connaître les pèlerins et les malades est très clair sur le message de ce panneau. Comme il était étendu par terre à cause de la douleur de ses blessures, il provoquait encore par force d'esprit les démons à de nouvelles luttes. Alors ceux-ci lui apparurent sous différentes formes de bêtes féroces et le déchirement à coups de dents, de morsures et de griffes. Mais tout à coup apparut une clarté admirable qui mit en fuite les démons et Antoine fut guéri. Ayant reconnu que Jésus-Christ était là, il dit « Où étiez-vous, bon Jésus, où étiez-vous? Que n'étiez-vous ici dès le commencement pour me porter secours et me guérir de mes blessures ?» Ces paroles, que je viens de vous dire, sont inscrites sur un petit papier qui est accroché à la souche de l'arbre en bas à droite du panneau. De cette mise à l'épreuve, Antoine, qui au début a douté, est sorti grandi. Dieu est venu à son secours comme il vient en aide aux malades qui ont foi en lui. Tel ce personnage bizarre, assis en bas à gauche du panneau, et dont l'avant-bras gauche est gangréné. Il symbolise tous les malades atteints du feu de Saint-Antoine. La prochaine fois, nous verrons toujours, sans le voir, ce que découvraient les fidèles à Eisenheim et aujourd'hui les visiteurs du musée, lorsque la première paire de volets peints était repliée sur les sculptures. Quatre panneaux se succédaient, illustrant les grands moments de la vie du Christ, l'Annonciation, la Nativité et la Résurrection.